Bonjour et bienvenue chez Studio Bière, le podcast où deux ethologues néerlandophones traversent la frontière linguistique à la recherche des bières et brasseries francophones. Parce que la bonne bière n'a pas de frontières ou de langue. Bonjour, depuis presque deux ans, nous avons un podcast néerlandophone avec comme sujet la bière. Nous nous sommes dit d'aller également à la recherche de la bonne bière de l'autre côté de la frontière linguistique. Donc nous voilà dans un lieu, il faut le dire, très beau, un manoir dans la province de Liège à Harzee. Mais le nom de la brasserie ne fait pas du tout tout de suite penser que nous sommes en Wallonie. Nous sommes à Misery Beer Company. Tout d'abord, merci de nous accueillir. Et le nom, pas vraiment francophone, d'où vient-il ?
Bonjour Christophe. Bonjour. Et, en fait, c'était une volonté pour nous de ne pas choisir un nom francophone ou en tout cas de ne pas avoir quelque chose qui était lié au village ou au lieu où on est ici. C'était vraiment important parce qu'on est dans une région où on a énormément de germanophones, de néerlandophones qui passent ici, soit leurs vacances ou qui achètent une maison de vacances. Donc on peut le voir ici dans le bar, c'est à peu près 50% de francophones et 50% de néerlandophones ou de germanophones aussi.
Ah oui, de tous les côtés. Ouais. Et donc ça devait être compréhensible pour tout le monde.
Exactement, oui, c'est ça. Fait.
Le nom Misery Beer, y a-t-il une connexion avec quelque chose ? Ça vient d'où
Mais bonjour Christophe, bienvenue. Mais donc le nom vient à la fois de notre amour pour Stephen King et son roman Misery, qui est probablement un des plus connus de l'auteur, et de l'écho entre ce roman qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on aimait beaucoup, et l'endroit dans lequel on se trouve, ce manoir dans les Ardennes qu'on a visité nous la première fois sous la neige, et dont l'ambiance évoquait tout à fait un roman de Stephen King et Misery en particulier. Je pense qu'on peut dire aussi qu'à un second niveau, Misery, c'est aussi la longue histoire pour construire ce projet, pour développer cette brasserie, qui n'a pas toujours été facile. Donc on était heureux de choisir un nom qui peut se comprendre à plusieurs niveaux.
Ah oui, d'accord. Ça ne s'est pas construit en quelques jours, ce projet apparemment. Donc. J'ai aussi entendu qu'il y a aussi une connexion musicale avec Misery, est-ce que c'est correct ou...
Oh oui, on aime. Enfin, vous pensez au morceau de Metallica ou...
c'est ce que j'ai entendu, oui.
On aime bien.
Du Black Album de Metallica.
Bien sûr, My Friend of Misery. Ça a marqué mon adolescence. Et puis j'aime particulièrement bien ce morceau-là aussi. Et puis, il y a quelque part tout ce qu'on fait ici, c'est aussi des compagnons de galère, enfin des compagnons de misère, avec qui on a fait la brasserie ici. Et c'est un esprit qu'on a entre nous dans l'équipe, c'est un peu un esprit de lutte quotidienne et aussi de frustration accumulée pour arriver à développer tout ça. Ça représente pas mal tout ce qu'on fait ici, quoi.
Évidemment. Les temps ne sont pas, ce ne sont pas très favorables pour commencer une brasserie parce qu'il y a eu le Covid qui a frappé à un moment donné où vous étiez en plein start-up, disons. Et maintenant, cet été, il y a encore eu les inondations. Vous avez aussi eu des problèmes, si j'ai bien compris.
Le ruisseau à côté de chez nous a débordé. Dès le 14 juillet, et ça s'est poursuivi pour plus d'un jour et demi, on a eu des gros dégâts à l'extérieur, des dégâts à l'intérieur aussi. Ça a été un moment vraiment difficile après déjà une première année d'ouverture où on a été plus fermé qu'ouvert, puisqu'on a été fermé pendant plus de 8 mois, juste après notre ouverture. Donc à la date des inondations, on avait 11 mois d'existence, dont 8 et demi de fermeture.
On allait fêter notre anniversaire d'un an. Et c'était quelques semaines avant l'anniversaire. C'était 2 semaines pour être exact. Et déjà, réellement, l'ouverture, la date d'ouverture ici, notre anniversaire d'ouverture, c'est déjà une date un peu difficile pour nous parce que c'est une ouverture qui a été reportée pendant des mois. C'est-à-dire que ouais, on était prêts, on attendait de pouvoir ouvrir, mais avec le Covid, on ne pouvait pas. Et donc, du coup, on a ouvert pendant 7 semaines, il y a un an, et puis on a dû fermer le bar pour 8 mois. Et puis après la réouverture, on a l'inondation qui vient remettre les compteurs à zéro pour nous. Mais par chance, on a des voisins extraordinaires, tous nos clients sont venus, vraiment,
vous aider.
Vraiment touchant, parce que on a des clients, des amis qui sont des clients qui sont devenus des amis,
oui.
Qui avaient leur maison complètement ravagée et qui étaient ici
à vous aider.
La solidarité est très touchante. On a été vraiment impressionnés et on a essayé aussi d'aider un peu de notre côté. Mais c'était très impressionnant de voir l'ampleur, puisque, bien sûr, il y a eu tellement, tellement de sinistrés dans la région.
Il n'y a pas que vous, évidemment, il y a beaucoup de choses.
Et c'est pas fini, c'est pas fini.
Ce que nous avons vu sur les bords de route aussi, tous les dégâts qu'il y a, le matériel qui a été mis dehors parce qu'il n'est plus utilisable. Mm-hmm. C'est des drames, évidemment, oui. Pour en revenir quand même un peu au positif, là, j'ai lu que vous avez les fûts, vous avez dû les remettre en canette, la bière. C'est pas évident, à mon avis.
En fait, on a essayé ça sur une bière. En fait, on n'a pas pu la commercialiser parce que on n'arrivait pas à avoir la qualité qu'on voulait.
Non.
Et en fait, on a perdu la totalité de la production qu'on avait à la fermeture du bar en octobre de l'année passée. On a perdu absolument la totalité des fûts. Il y a juste une partie qu'on a distillée.
Ça fera une petite surprise à redécouvrir, sauvée du Covid, d'ici quelques mois, puisque c'est une partie qu'on a donc distillée, qui est en petit volume maintenant d'alcool plus élevé en degré et qu'on fait vieillir pour amener une petite surprise à la fin de cette année. Avoir cette note positive et avoir sorti quelque chose de chouette de toute cette période compliquée du Covid.
Oui, tout à fait. La brasserie ici est toute nouvelle, mais êtes-vous aussi nouveau dans le monde, dans le milieu brassicole, ou vous aviez déjà de l'expérience autre part?
Moi, dans l'équipe... le reste de l'équipe, oui, à peu près tout le monde a commencé l'année passée. Mais moi, je suis le seul qui avait de l'expérience en brasserie. Et puis ma famille, toute ma famille a travaillé en brasserie. L'entièreté de ma famille même a travaillé en brasserie, que ce soit mes frères, mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes.
Et puis on a toujours brassé nous-mêmes, nous. Et parce que ça nous plaisait simplement, donc familialement.
Oui, et puis moi, c'est mon métier aussi.
Un passe-temps.
C'est comme ça que Rémi m'a appris, quand on avait une autre carrière à ce moment-là, à brasser. Et puis est venu le projet et l'idée de vraiment changer de vie pour s'investir complètement là-dedans.
Vous êtes à plein temps, à deux ici.
Et puis ici, oui, c'est-à-dire, moi, je suis brasseur, c'est mon métier, j'ai pas de... J'ai pas réellement dû changer de ici, j'ai dû m'adapter à la taille, c'est beaucoup plus petit ici, c'est un nouveau métier.
Oui.
Bien sûr, on n'est pas sur les micro-brasseries, c'est pas du matériel qu'on voit en industrie.
Non.
Donc c'est aussi une autre école, je dois apprendre beaucoup, je n'ai pas de filtre, je n'ai pas de matériel pour centrifuger ma bière.
Non.
Je prends beaucoup plus de risques ici. Avec les quantités qu'on fait.
Oui, mais vous avez quand même une certaine qualité que vous vouliez absolument atteindre. Comme vous dites, on n'a pas pu récupérer les fûts. C'est parce que vous n'étiez pas content du résultat quand vous l'avez mis en canette. Donc, il y a quand même des standards
on a essayé,
vous ne voulez pas aller.
Ouais. Bien sûr, on a essayé ça, mais pendant la période où on était fermé avec le Covid... On a aussi dû faire tourner le magasin ici, vendre tout le temps pour garder tout le monde dans l'équipe, pour pouvoir payer le matériel, payer le manoir et ne pas se mettre en difficulté. Et à cette époque-là, on n'a pas toujours été content de ce qu'on faisait.
Non.
Et voilà. ça reste lié.
Ce que nous sommes surtout actifs en Flandre, évidemment, nous habitons la région d'Anvers. Ce que nous entendons en Flandre de la Wallonie, c'est surtout les grandes brasseries. Les petites brasseries sont moins connues chez nous. Mais les derniers temps, j'entends quand même que ça commence à changer et les petites brasseries comme la vôtre commencent à être actives aussi, une distribution en Flandre. Est-ce que vous avez déjà une distribution en Flandre aussi ou pas encore?
Oui, alors on était très contents que des canettes et des fûts partent d'ici pour aller à Anvers, bien sûr, et ça depuis le début de l'existence de la brasserie, à Gand aussi. C'est arrivé à plusieurs reprises à Leuven que nos canettes et ou nos fûts sortent d'ici pour la Flandre, et on était très très heureux de ça. Maintenant on vend un petit peu moins en dehors du manoir depuis quelques mois, depuis la reprise après le second confinement, mais c'est assez temporaire et c'est aussi lié au fait que notre taille est toute petite. On a une production vraiment très limitée.
Oui.
Et on a besoin de s'en sortir après cette période difficile du Covid. Donc on vend beaucoup ici. Mais néanmoins, chaque fois qu'on a l'occasion, il y a quelques cartons de canettes, quelques fûts qui partent. Je crois que la dernière fois qu'on a eu des fûts à Anvers, ça ne fait pas longtemps, ça fait un mois. C'est régulier.
En fait, c'est pour moi, c'est vraiment touchant pour moi de voir ça parce que c'est à peu près le dernier endroit où je pensais que ça allait aller au début. Directement quand on a commencé, je me suis dit que la Flandre, ce serait quand même compliqué pour nous.
C'est ce que j'ai pensé aussi, vu qu'on connaît très peu les petites brasseries wallonnes, tandis qu'il y en a tellement, et il y en a des très bonnes évidemment, parce que je suis passé ici cet été et j'ai vraiment aimé déguster vos bières, donc c'est pour la raison pour laquelle nous sommes là de nouveau, évidemment. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait la barrière était vraiment la frontière linguistique, donc mais ça commence à s'améliorer et ça me fait plaisir aussi.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui aussi va au-delà des préjugés sur ce qu'on peut avoir sur la Wallonie ou la frontière qu'on peut mettre entre nous. Parce qu'en réalité, quand on regarde au niveau brassicole, je pense que la Wallonie a vraiment un trait de retard sur ce qui se passe en Flandre. Et c'est assez net pour moi en tant que brasseur. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de mal à trouver des financements, trouver notre... expliquer notre projet à la banque était quelque chose de très compliqué. Et puis finalement, quand on a été dans les mêmes banques, mais à Bruxelles ou en Flandre, c'est beaucoup plus facile d'expliquer notre projet ici.
Oui.
Et donc du coup, on doit clairement, notre brasserie, on doit aussi ça à nos clients qui viennent de Flandre. Le fait que c'est eux les premiers qui ont compris ce qu'on faisait ici et vous pouvez le voir le week-end d'ici, il y a 50% réellement de clients flamands et c'est depuis l'ouverture. Vraiment. Moi je suis vraiment impressionné par ça et quand on va à Anvers ou quoi,
l'accueil est très chaleureux.
Vraiment, parce que moi j'ai des souvenirs d'Anvers quand j'allais voir des concerts au Trix ou des choses comme ça. Mais et maintenant voir qu'il y a nos bières là-bas, c'est génial.
Oui, et je crois que le public flamand comprend mieux nos bières que le public wallon. Donc on était impressionnés aussi en développant des bières qui sont plutôt américaines ou canadiennes, que le public flamand connaît ces bières-là, sait ce qu'il va retrouver ici, tandis que côté wallon, il faut souvent expliquer ces styles.
C'est un public qui est pas les styles typiquement belges que vous brassez, hein, parce que on va peut-être voir ça de suite aussi, mais vous êtes en IPA surtout, je vois quand je vois la carte pas mal, mais aussi en sours, vous avez avec les barriques et les fûts que vous avez, vous êtes en pleine phase expérimentale aussi, donc moi, j'aime bien. Allez, nous aimons fortement. Et je crois que quand on parlait il y a 10 ans en Flandre, c'était aussi pas encore comme ça, mais ça a fortement monté. Et je suis heureux que ça passe dans toutes les régions. Ça passe parce qu'il y a des collègues aussi en Wallonie où ils font des belles bières. Des choses. Comment êtes-vous commencé à faire ces styles-là et pas la classique double, triple?
Alors, en fait, ici, comme vous disiez, en Wallonie, à l'époque où il y a eu les premières microbrasseries, que ce soit de Ronk ou après, il y a eu de la brasserie de la Seine, des choses comme ça. Moi, je travaillais en brasserie et quand on voyait ça arriver, c'était quand même vraiment beaucoup c'était inspirant pour nous.
Oui.
Après, j'ai découvert des brasseries en Flandre, que ce soit de Streus ou Alvin, nous on aime beaucoup ça.
Oui.
C'est quand même des choses qui nous plaisent vraiment, mais en fait, Samia, elle m'a fait découvrir les États-Unis parce qu'elle a grandi là-bas. Et donc, on a fait quelques voyages là-bas. Et j'ai découvert les bières craft comme ça aussi,
oui,
là. Donc on a nos familles qui... Enfin, c'est complètement improbable, mais on a nos deux familles qui habitent à Montréal.
Ah oui.
Et moi, quand j'ai eu fini mes études en brasserie en Belgique, je suis parti étudier là-bas à Montréal. Et j'ai travaillé là-bas aussi. Et donc du coup, Samia est venue me retrouver là avec les enfants. Et donc forcément, ça a eu énormément d'influence sur, sur ce qu'on fait ici. Et puis quand on est rentré en Belgique, on avait l'assurance aussi de faire quelque chose de réellement, je veux dire, totalement honnête, parce que c'est ce qu'on savait faire.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà.
C'est ce que vous aimez voir.
C'est ce qu'on aime bien voir.
Et donc, faire la production est une logique à ce moment-là.
Ouais.
C'est un produit que vous pouvez défendre avec passion à ce moment-là. Quand j'ai découvert Misery Beer Company, j'ai tout de suite remarqué que ce n'est pas qu'une brasserie, parce que j'ai vraiment l'impression que sur les réseaux sociaux, ou c'est vous qui êtes très actif, ou les fans sont très actifs. Je ne sais pas vraiment si c'est vous qui incitez les autres à le faire, mais je vois vraiment une communauté vraiment qui sont fans de vos bières et qui sont très actifs aussi.
En fait, on est... Enfin, oui, c'est vrai, je le coupe, mais on est. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Liège pour l'esprit de la ville ici à Liège.
À vrai dire, pas vraiment.
Ouais, c'est un peu une ville unique en Wallonie. Enfin, elles sont toutes uniques, bien sûr, mais je pense que Liège a quand même un esprit différent des autres villes. Donc, c'est quand même un pays ici. Quand on est à Liège, on est dans une ville qui a été un pays pendant 1000 ans.
Oui.
Forcément, ça a un impact sur sur le sentiment d'appartenir à une vraie communauté.
Ouais.
Et malheureusement, au niveau brassicole à Liège, il y a eu très peu de choses qui se sont passées pendant les dernières années, ou en tout cas, les brasseries qui étaient à Liège faisaient faire à façon. Il n'y a pas réellement une identité liégeoise autour de la bière qui jouait avec les codes liégeois, c'est-à-dire frondeur, fêtard. Quand je dis frondeur, ça peut être mal vu, mais les Liégeois, ils vont comprendre ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, c'est sortir du cadre. Ben voilà, il y a des limites, et puis c'est plus ou moins la vague pour tout le monde ici à Liège. Et c'est quelque chose qui est... C'est du folklore, c'est très, très, très chouette. Et nous, quand on a fait la brasserie ici, on a compris très vite que notre personnel, l'équipe qu'il y a autour de nous, on était trop Liégeois... pour le reste du pays, ça nous faisait même peur de se dire on est d'abominables fêtards, ça va pas être sérieux. Et en réalité, je pense que ça fait tout de suite une communauté de gens qui comprenaient que...
Un esprit particulier qui transparaît dans les publications, dans notre façon d'être. Mais ça se voit dans les publications, mais les clients ou les fournisseurs qui travaillent avec nous le voient aussi à un autre niveau, mais parce qu'on est comme ça,
c'est
simplement.
C'est une vraie force pour la brasserie.
Ouais, ouais, vraiment. Et c'est l'esprit aussi, c'était de faire la fête très tard et de se lever très tôt pour travailler, mais toujours, jamais oublier de profiter.
Non.
Donc, c'est-à-dire travailler dur, mais aussi faire la fête très dur.
Une récompense pour le travail dur, évidemment. est-ce que, ça je ne sais pas vraiment, est-ce que vous êtes aussi, vous allez au foire pour faire déguster vos bières ou au festival de bières? Parce qu'on vous a vu à la Wanderlust de Brussels Beer Project, mais est-ce que vous faites ça régulièrement ou quoi?
Alors, on aurait beaucoup aimé, et on avait déjà plusieurs invitations en 2020, et puis tous les festivals ont été évidemment annulés à cause du Covid. Et donc, on n'a pas eu l'occasion vraiment de sortir du manoir cette année-là. Mais cet été, au fur et à mesure que les événements reprenaient, on a eu l'occasion d'être présent au Wanderlust, d'être présent aussi au Bière à Lille, qui est quand même un gros festival, mais dans le nord de la France. Plus récemment, mais là, il fallait qu'on soit à Liège. Donc, c'est notre terroir. On était à la Cité de la Bière à Liège. Et voilà, on a une toute petite équipe, donc on n'a pas les moyens humains d'être partout. Donc on doit choisir là où on a la possibilité d'être en répartissant les occasions pour que tout le monde puisse aussi avoir des moments de détente.
Oui,
parce
vraiment.
Que travailler dur un week-end, même si c'est toujours très chouette, demande de se répartir ça avec le peu de gens qu'on est. Mais on a bien l'intention d'être encore à des événements l'année prochaine, et on se réjouit de ça, enfin, je pense, comme tout le monde. Parce qu'après la traversée, le tunnel du Covid, on a besoin
aussi,
de rencontrer...
Nous sommes très contents que ça reprend et qu'on puisse aller explorer des festivals ou des foires où on peut apprendre à connaître des nouvelles brasseries aussi. Hein. C'est le but. On ne va pas boire la bière qu'on a déjà bu 100 fois.
Oui, puis à Bruxelles, il y avait pas mal de personnes qui connaissaient de nom, qui ne connaissaient pas la bière.
Oui.
Où nous-mêmes, on pouvait rencontrer ces gens-là. À Lille aussi, c'était pareil.
C'est une rencontre importante avec le public, un festival, parce que c'est là qu'on a un retour aussi sur nos bières plus largement, avec des gens qui viennent avec un esprit neuf, qui ne connaissent pas encore. Et donc, c'est très précieux en tant que brasseur aussi.
Et que ce n'est pas juste la famille qui dira de toute façon que c'est bon, même si
bien
ce
sûr.
N'est pas bon. qui a un réponse réel sur ce que ça veut dire. Est-ce que dans des contacts comme ça, vous avez aussi des contacts avec d'autres brasseries pour faire des collaborations, par exemple?
Oui,
bien sûr.
En fait, ça, on a eu beaucoup de chance ici avec le bâtiment, le manoir lui-même, parce que moi, comme j'avais déjà travaillé en brasserie avant ça, et aussi parce que nous, on avait travaillé aux États-Unis, au Canada, ensemble, là-bas, quand on a eu le manoir, pendant 2 ans, pendant les travaux, on a déjà commencé à recevoir des gens dans le bed and breakfast ici au-dessus.
Ah oui.
Et en réalité, on a eu énormément de brasseurs qui se donnaient le mot, qui disaient l'un à l'autre qu'il y avait ici les appartements. Et en fait, pendant presque 2 ans, on a reçu toutes les brasseries qu'on peut imaginer. Je pense à Burning Sky ou des choses. C'est complètement improbable.
De la Norvège au Canada, en passant par l'Italie, les États-Unis, on a eu beaucoup de monde.
Beaucoup
et
de brasseurs
très,
craft
très
aussi,
ouais.
Ça donne l'inspiration
ouais.
L'un à l'autre.
Et puis ils venaient ici, puis ils nous ont conseillé pour le matériel, pour plein de choses. Donc les volontés de faire des collaborations, évidemment, on l'avait déjà quand on a eu ça ici.
Avant,
mais ça. Forcément, oui, quand on a été au festival, je pense que particulièrement à Bruxelles, on a sympathisé... tout de suite avec des personnes qui étaient là autour de nous. Naturellement, je veux dire, la source, c'est comme une...
C'était déjà une évidence.
C'est un miroir de ce qu'on fait ici. Mais après, on a surtout découvert des personnes qui étaient là-bas. À Julia Datutet ou des choses comme ça.
On a beaucoup de projets de collaboration, plus proches ou plus loin. La question maintenant, c'est toujours d'arriver à trouver le temps. Puisque, étant tout petit et qu'une petite équipe, on est souvent bien occupé, mais ça va venir. Tout ça se met en place et
faut donner le temps.
Oui, et puis il y a de belles surprises quand même qu'on va faire. Parce que moi, je n'ai pas forcément la place pour faire des collaborations ici. C'est-à-dire qu'on a peu de fermenteurs.
Oui.
Mais là, on est invité à en faire à l'étranger. C'est la première fois depuis le début et on a vraiment
des chouettes contacts, ça se présente bien. Ouais, on doit encore bien. Garder le secret pour le moment, mais les choses arrivent.
Ok. Ben, on verra bien ça sur les réseaux sociaux, ouais. Évidemment. Fantastique. Quelques mots sur, sur certaines bières. La première bière que vous avez produite ici, c'était quelle bière?
C'est la Faux.
La Faux.
C'est un Imperial Stout qu'on a fait, la toute première qu'on a fait dans la salle de brassage. Et c'était plutôt technique, c'était pour voir si tout allait bien.
Si le matériel...
ouais, voilà, on s'est dit, si on peut faire ça ici, c'est qu'on peut faire tout le reste.
J'ai vu qu'elle est encore sur la carte, donc ça a réussi apparemment.
Ouais, ça a réussi, ouais. Ça, c'est la toute première bière qu'on a fait ici.
Et c'est une des bières aussi qui sont dans les fûts.
Exactement, c'est ça, une bière ouais. qu'on a barriquée dans des fûts de bourbon qui ont contenu ensuite du cognac, et donc ça lui a donné une épaisseur et une dimension incroyable. Elle a passé plus de 8 mois dans les fûts avant qu'on la conditionne, et donc c'est pour ça que c'est une bière qui se savoure et qu'on l'a encore un tout petit peu. On va bientôt la refaire, je pense. Ah.
Quand je vois sur la carte, je vois aussi, parce que nous sommes à Arzé, et je vois une Harsington, c'est vraiment une bière signature aussi pour être ouais. dans la région ou...
Ouais, naturellement, hein, c'est un clin d'œil à Burlington, forcément, la capitale du Vermont, et Arzé.
Et c'est quel type de bière?
Alors c'est une IPA où on s'inspire clairement de ce que nous on a pu faire là-bas ou découvrir là-bas. Des IPA comme on ne voit pas forcément toujours ici en Belgique ou en Europe, parce que tendance à oublier le côté amer des IPA ici en Europe.
Oui.
Et donc du coup, bah, ici avec la Harsington, on a quand même pas mal de côté résineux, du houblon, ou des choses comme ça, des levures qui atténuent pas trop la bière, elle n'est pas trop sèche. Donc c'est une bière qui a du corps quand même, une belle amertume.
Oui.
Et clairement des notes d'agrumes prononcées. Donc ça, c'était clairement une signature de faire un lien avec Arzé.
Oui, d'accord. Nous sommes, et je suis très heureux de le faire, nous sommes en train de voir ici la Californian
Love.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette bière-ci?
C'est pour toi, ça.
Oui, mais là, c'était vraiment... Comme Rémi disait, on a eu l'occasion aux États-Unis de découvrir beaucoup de bières différentes et beaucoup de brasseries craft vraiment uniques pour nous. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance en Californie, et donc j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de retrouver la Californie dans une bière, et en particulier le style des West Coast IPA. Et donc quand on a fait celle-ci, ben, le nom est venu comme une évidence aussi.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique West Coast IPA pour ceux qui ne connaissent pas vraiment? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une IPA standard?
Bah ici, c'est clairement, c'est le malt qui est mis en avant.
Oui.
Et l'amertume qui ressort beaucoup plus puissamment que sur la Harsington ou sur une autre IPA ici. Donc c'est une IPA qu'on pourrait un peu appeler ça old school, dans l'esprit du malt et de l'amertume, où ici clairement quand on la goûte, on n'a pas forcément le côté fruit exotique, ou c'est pas la première approche de cette bière là réellement. Ça travaille sur le malt, et même la couleur de la bière est plus claire, on n'a pas du tout de hazy ou quelque chose comme ça, quoi.
Ok. Vous êtes toujours à la recherche de nouvelles recettes, ou est-ce que vous essayez de maintenir un certain nombre de bières que vous avez déjà établies, ou est-ce que vous essayez d'élargir la gamme plutôt?
Ça prend du temps de faire les essais déjà. C'est pas évident de toujours faire des nouveautés. Non, ici, forcément, avec le Covid, on était tenu de faire tout le temps nouveau, tout le temps. Sortir des bières parce qu'on devait faire venir les gens pour vendre des canettes au shop. Maintenant ici, j'ai plus de pression pour refaire les mêmes bières, bien plus compliqué que faire des nouvelles bières. Oui. C'est beaucoup plus dur pour une microbrasserie.
D'avoir le même niveau de qualité continue.
Donc ici, moi, pour cette année, je préférerais vraiment stabiliser la production créé les mêmes choses et puis on a développé ici un laboratoire au deuxième étage où on travaille beaucoup plus sur les levures sauvages. Et enfin voilà, ça c'est toute une gamme de bières qu'on va faire en plus. Mais c'est, en réalité, c'est pas une nouvelle recette qu'on fait. C'est une bière qu'on connaît parce que c'est la grisette ou la abricot de foudre que vous avez pu goûter ici. Oui. C'est la même base. Maintenant, la barrique dans différents types de barriques, que ce soit du sémillon, bourgogne ou des choses comme ça. Et après ça, on utilise des levures, des levures ici qu'on a prélevées dans
l'environnement autour de la brasserie. Ouais. Ouais.
Donc on a...
C'est des expériments bien intéressants à faire aussi en tant que brasseur.
C'est génial.
Comment ça évolue, c'est intéressant.
On a beaucoup de chance d'avoir... Dans l'équipe, on a Lucas, qu'on salue aussi, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il travaille du lundi au vendredi. Mais lui, il s'occupe que de ça. Et je suis vraiment super fier de lui. Il fait un super boulot ici. Il amène quelque chose de vraiment nouveau. Et il est... Enfin voilà, je suis super fier de travailler avec lui.
Très bien. Je vous remercie pour le chaleureux accueil et pour cette interview. Et pour nos auditeurs... visiter la brasserie Misery Beer Company. Une belle terrasse en été quand il y a le soleil qui brille et un intérieur un peu éclectique mais qui est fantastique aussi. Vous verrez ça sur nos réseaux sociaux aussi. On mettra toutes les photos et merci beaucoup pour l'accueil.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.